Jonathan Piron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes historien, politologue et chercheur au sein d'Etopia, ainsi que spécialiste de l'Iran. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on va parler de l'Iran suite à la visite du président iranien Ibrahim Raisi en Amérique latine. Il est au Venezuela actuellement, c'est la première partie de sa tournée dans trois pays d'Amérique du Sud. Alors première question, Jonathan Piron. Ibrahim Raisi effectue cette tournée en Amérique latine, de gros accords économiques sont en jeu. Alors, à quel point les relations entre l'Iran et les pays d'Amérique du Sud sont-elles stratégiques pour la République islamique ?
Ici, on voit d'abord que ce sont trois pays qui sont assez particuliers en Amérique latine. Ce sont trois pays qui sont en fait visés aussi par des sanctions américaines. Donc, on est justement dans une démarche de la part de l'Iran qui va aller voir des États avec lesquels, justement, il peut renforcer cette posture d'État anti-impérialiste, en fait, suivant la doctrine qu'on retrouve aussi bien en Iran que dans ces pays concernés. L'idée de venir en effet avec une série d'accords qui vont être signés, mais on est aussi dans une volonté en fait de ces différents États de rompre l'isolement dans lequel ils se trouvent et d'essayer de développer un axe en fait dans lequel ils vont chacun trouver justement des intérêts qui peuvent être un peu économiques, mais qui peuvent être aussi en fait dans d'autres secteurs qui ne vont pas apparaître de prime abord, comme notamment la question de la sécurité, mais aussi pour l'Iran, la question de l'accès au marché des banques que notamment le Venezuela lui offre en fait sur le sol d'Amérique du Sud.
Alors justement, vous l'avez dit, Ibrahim Raisi se rend donc au Venezuela, à Cuba ainsi qu'au Nicaragua. Ce sont des pays, comme vous le dites, qui font l'objet de sanctions économiques de la part des États-Unis. Est-ce que justement cette visite du président iranien là-bas, c'est un pied de nez en quelque sorte à Washington ?
Il y a cette volonté en effet de montrer aux Américains de la part des Iraniens qui peuvent aller sur ce qu'on appelle leur précaré. Il y a aussi une volonté de communication à l'intérieur des différents États qui sont concernés, puisque c'est montré qu'on sait rompre l'isolement. Maintenant, on se retrouve aussi dans une habitude qui est historique. Donc la visite de Raisi, elle n'est pas exceptionnelle. Il y a déjà eu d'autres visites par le passé, d'autres accords. On peut se souvenir, par exemple, durant la présidence d'Ahmadinejad, qui était ce président iranien ultranationaliste et populiste, qu'il affichait en fait sa grande amitié personnelle avec Hugo Chavez, qui dirigeait à l'époque le Venezuela. Il y avait aussi cette rhétorique populiste, anti-impérialiste qui était mise en évidence. Et puis, en fait, on a vu par la suite le président Rouhani également s'inscrire dans cette démarche-là, mais lui avec la volonté justement d'avoir des accords commerciaux qui vont se mettre en place pour essayer justement de sortir l'économie iranienne de ses difficultés. Donc, on est dans une continuité en fait de la démarche, une continuité des politiques. Maintenant, il faut se demander si les différents accords qui vont être conclus représentent vraiment une alternative économique intéressante, et surtout s'ils vont être suivis d'effet.
Concernant la présence militaire iranienne dans la région, est-ce que c'est problématique pour les États-Unis ?
Il faut relativiser la présence iranienne dans la région. Donc, il est vrai qu'on voit parfois des affirmations venir sur la présence du Hezbollah, notamment au Venezuela, grâce à l'action iranienne. Également des annonces suivant lesquelles des bâtiments de la flotte iranienne pourraient se retrouver près du canal de Panama. Maintenant, on est dans un rapport de force dans lequel les Iraniens ne peuvent absolument pas rivaliser avec les États-Unis. On est encore une fois beaucoup plus dans une posture, dans la volonté de rompre un isolement, dans toute une série de déclarations, mais qui, en fait, fondamentalement, ne changent pas la politique régionale en place.
Alors, une question qui nous tient relativement à cœur ici à Radio Judaïka, Jonathan Piron, les pays d'Amérique du Sud et le Venezuela en particulier, ce sont traditionnellement des soutiens de la cause palestinienne. Est-ce qu'on peut dire que le clan des pays anti-sionistes, l'Iran le premier, grandit encore ?
On est dans une continuité de l'action, donc il y a encore une fois cette volonté justement de démontrer que les relations peuvent se faire en dehors du continent, de la part de ces trois acteurs, qu'il peut y avoir des contacts qui se font avec notamment un pays qui se retrouve au Moyen-Orient. De la part de l'Iran, c'est également cette volonté de démontrer qu'il peut rompre son isolement et toucher des pays qui sont même très opposés à lui en Amérique latine, puisqu'on a affaire à des gouvernements qui se positionnent comme étant de gauche, mais qui sont en fait des gouvernements nationalistes et laïcs, avec un État ici qui est un État théocratique. Maintenant, encore une fois, quels sont les moyens qui sont vraiment à disposition pour arriver justement au soutien de cette politique ? On parle de la présence de troupes du Hezbollah au Venezuela, de centres de formation également pour les Pasdaran qui se trouveraient sur le sol du Venezuela. Maintenant, ce sont des éléments qui sont assez mineurs, qui ne représentent pas non plus réellement un pouvoir, une capacité qui pourrait avoir une action ou en tout cas engager des leviers au Moyen-Orient. Les vrais partenaires et les vrais alliés de l'Iran se trouvent en fait au Moyen-Orient. C'est là en fait qu'il définit d'ailleurs son périmètre de sécurité premier, dans les relations notamment avec la Syrie, mais également avec le Hezbollah et avec des milices irakiennes qui sont aujourd'hui en place justement à Bagdad. Donc le périmètre de sécurité primordial d'Iran reste toujours bien au Moyen-Orient.
Justement, vous faites référence au Hezbollah. Donc, c'est cette alliance Iran-Amérique latine, ça ne signifie pas que le Hezbollah va s'implanter de plus en plus dans la région et augmenter par conséquent le trafic de drogue qu'il finance?
Ce sont les questions qui se posent justement, c'est quels sont aujourd'hui les liens que le Hezbollah entretient concrètement avec le Venezuela. On parle de ce centre d'entraînement, on parle en effet de flux de drogue qui arrivent dans la région, qui pourraient donc aussi servir à financer les activités du Hezbollah. Et donc il faut bien entendu suivre la situation et continuer justement à essayer d'obtenir des renseignements pour savoir ce qui se passe exactement d'ailleurs sur le sol du Venezuela, puisqu'on voit que les accords économiques qui sont mis en évidence justement pour le moment par les Iraniens et par les Vénézuéliens sont finalement des accords assez faibles qui ne permettent pas de changer la donne. Ce qui est d'abord primordial aussi à l'Iran, si on regarde ça d'un point de vue économique, c'est d'abord en fait d'avoir accès notamment au marché bancaire, puisque pour le moment il est isolé dans sa propre économie. Et donc justement, par ses contacts avec le Venezuela, il peut avoir accès à toute une série justement de devises étrangères, également à l'ouverture d'un marché qui se retrouve en Amérique du Sud, mais qui finalement reste dans des valeurs qui sont quand même assez faibles par rapport aux besoins du régime iranien actuel.
On prend un peu de hauteur et on quitte le Venezuela. Vous parliez des vrais alliés de l'Iran qui se trouvent dans la région. Alors justement, suite au récent rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran sous la bienveillance et l'égide de la Chine, est-ce qu'on peut dire que l'Iran devient de plus en plus puissant actuellement au Moyen-Orient ?
Il faut en fait essayer de voir dans l'ensemble des événements qui sont arrivés au cours des dernières semaines ce qui est en train de se passer. Et donc il y a évidemment eu la volonté de réouvrir les ambassades et d'avoir des relations apaisées entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais il y a ici eu d'autres actions qui ont été réalisées, notamment par les Émirats Arabes Unis. Également la libération d'otages qui étaient détenus en Iran le mois dernier. Et on pense évidemment à Olivier Van de Castel, mais à d'autres otages qui ont été aussi libérés. Et également à la médiation d'Oman, qui a souhaité justement en fait être l'intermédiaire entre l'Égypte et l'Iran pour que des relations également apaisées se mettent en place. De même que certains signes d'ouverture ou en tout cas de volonté de reprendre les négociations sur le nucléaire, sans bien entendu savoir exactement si ces négociations pourraient aboutir. C'était encore très difficile pour le moment d'analyser exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on est dans une période d'ouverture? Est-ce que c'est un jeu en fait qui est utilisé pour le moment par l'Iran pour essayer un peu de temporiser les pressions? Donc il va falloir voir dans les semaines à suivre comment concrètement ces choses vont se mettre en place. Mais il y a peut-être aussi en fait une posture de la part de certains États dans la région, comme par exemple l'Arabie Saoudite, de se dire qu'ils doivent essayer de trouver les moyens justement pour s'en sortir un peu seuls. Je me souviens d'ailleurs d'un article qui avait été publié il y a quelques années par un journal saoudien proche du pouvoir et qui titrait dans son éditorial « Nous sommes seuls », considérant d'ailleurs que les États-Unis ne viendraient plus les sauver. C'était d'ailleurs durant l'administration Trump, et on voit d'ailleurs que l'administration Biden a de fortes réticences aujourd'hui à venir justement soutenir l'Arabie Saoudite. Et donc, est-ce qu'il y a aussi une volonté de réorientation de la part de ces États à l'égard de l'Iran? C'est des questions qui se posent. En tout cas, on est dans une séquence intéressante. Des éléments sont en train de bouger, mais on ne devine encore pas très bien vers quelle attitude politique on est en train de s'engager.
Une dernière question, Jonathan Piron. En ce qui concerne l'accord sur le nucléaire iranien, où est-ce qu'on en est dans les négociations actuelles lorsque l'on sait que l'Iran se rapproche dangereusement du seuil pour obtenir la bombe atomique?
Les négociations actuelles sont au point mort, en fait. Il n'y a plus du tout d'échange concret qui est réalisé. Il y a visiblement eu des contacts récemment via, encore une fois, la médiation d'Oman entre les Américains et les Iraniens. On a vu aussi qu'il y a eu toute une série de réponses qui auraient été données par l'Iran à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, par rapport à des questions qui se posaient, notamment un taux d'enrichissement d'uranium qui atteignait 80% dans un site qui n'était pas répertorié. Maintenant, même si ces réponses ont été données, on est quand même dans un programme nucléaire iranien qui n'a jamais été aussi loin, dans le stock d'uranium enrichi, dans le taux également d'enrichissement qui est celui de 60%. On a eu aussi des déclarations récemment de Khamenei, le guide iranien, qui affirmait que ce qui avait été acquis ne pouvait pas être démantelé. Et donc on est toujours en fait dans un jeu qui est à la fois un jeu d'ouverture et de fermeture de la part du régime, qui pour le moment en fait semble de plus en plus s'engager en effet vers la voie du seuil nucléaire, s'il ne l'est pas déjà, c'est-à-dire qu'il a la capacité à développer l'arme nucléaire, parce qu'en plus du programme nucléaire, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le programme des missiles balistiques. Maintenant, est-ce que cette situation de seuil nucléaire fait que l'Iran voudra acquérir la bombe? Là, on est en fait dans une question politique qui, d'après en fait toute série d'experts, notamment proche de l'AIEA, n'a pas encore été vraiment résolue par le régime iranien. Donc, il va encore falloir voir par la suite si des négociations vont pouvoir se réaliser. Maintenant, pour qu'une négociation soit un succès, il faut qu'il y ait de la confiance entre les acteurs. Cette confiance n'existe pour le moment pas du tout. Et si on se dirige vers, par hasard, le succès d'une nouvelle négociation sur le nucléaire, il ne faut peut-être pas s'attendre à un accord comme celui de 2015, mais plutôt à un petit accord avec certaines garanties qui permettent d'éviter que l'Iran en fait ne se dote de la bombe.
Merci beaucoup Jonathan Piron d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs
merci, à vous.
Merci, tout plaisir. Et pour nous, vous êtes historien, politologue, chercheur au sein d'Etopia et spécialiste de l'Iran. Merci beaucoup.
Bonne journée.